de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Aujourd'hui, nous commençons par le journal. Voici Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La semaine de la culture nationale renforce la culture inclusion. Des entreprises indonésiennes cherchent des opportunités d'affaires en Grèce. Le défilé de bateaux de pêche a animé l'apogée de Selnias 2019. Le festival de cerf-volant Gianyar est ouvert. Un événement créatif millénaire était ouvert. L'Indonésie est d'accord pour intensifier ses relations bilatérales avec la Russie et les États-Unis. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche renforce la compétitivité de MPME du secteur de la pêche sur le marché numérique. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie organise une semaine de la culture nationale du 13 au 19 octobre 2019 à Istora Senayan, Jakarta. L'événement qui s'est tenu pour la première fois avait pour thème la salle commune indonésienne heureuse. Le directeur général de la culture du ministère indonésien de l'éducation et de la culture, M. Hilmar Farid, a déclaré récemment lors d'une conférence de presse à Jakarta que la Semaine nationale de la culture était une forme de la mise en œuvre des stratégies de promotion de la culture par le Congrès culturel indonésien 2019, à savoir fournir un espace pour la diversité des expressions culturelles et encourager les interactions culturelles pour renforcer les cultures inclusives. Fournir un espace d'interaction pour diverses communautés de toute l'Indonésie, l'objectif est également de former une culture inclusive. Monsieur Hilmar Farid a déclaré que la sélection du thème « Un espace commun indonésien heureux » était conforme au discours prononcé par le président Joko Widodo à la clôture du dernier congrès culturel indonésien, selon lequel la culture était la joie. Il y a au moins 5 activités principales dans le tenu de la Semaine nationale de la culture, à savoir des concours, 2 jeux folkloriques, des conférences sur le progrès culturel, des expositions culturelles, des représentations d'œuvres culturelles nationales et des défilés culturels. Des entreprises du secteur de meubles, de l'alimentation et des boissons, y compris le café et les bijoux, cherchent les opportunités commerciales au 84e Salon international de Thessaloniki International Fair, qui se tient à Athènes du 7 au 15 septembre. Christina Natalia, de l'ambassade de la République d'Indonésie à Athènes, a déclaré récemment à Antara, Londres, que l'Indonésie était l'un des participants à l'exposition de Thessaloniki International Fair, la plus grande exposition annuelle organisée en Grèce et même dans les Balkans depuis 1926. La participation de l'Indonésie était spéciale cette année parce qu'en 2019, l'Indonésie peut présenter 21 sociétés occupant une superficie de 117 mètres carrés au milieu du pavillon du 5 Thessaloniki International Fair. L'ambassadeur d'Indonésie en Grèce, Ferry Adam Har, a déclaré que l'attendu du stand de l'Indonésie dans cette exposition était dû à l'intensification des commerces entre l'Indonésie et la Grèce pendant les trois dernières années, qui ont atteint 300 millions de dollars américains en 2018. Cette augmentation fait partie de la vision visant à faire de la Grèce une entrée alternative pour les produits indonésiens en Europe, notamment dans les régions de la Méditerranée, de l'Europe de l'Est et des Balkans. Le défilé de bateaux de pêche a également animé l'apogée de Selnias 2019 qui s'est tenu aux portes de Baru, Teluk Dalam, dans la région de Nyasut, à Sumatra du Nord, samedi. 100 bateaux de pêche ont défilé devant des milliers de personnes et d'invités qui ont assisté à l'apogée de Selnias 2019 et a été également assisté par le ministre coordinateur des Affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, représentant du président Joko Widodo et d'autres ministres. Cela a été annoncé par Antara au port de Baru, Teluk Dalam, samedi. L'apogée de Selnias 2019 était également animée par la danse colossale exotique de la culture de Nias, un défilé de bateaux de pêche accompagné d'un paramoteur et d'une paratrique, un parachutisme composé de 16 membres du personnel de TNI flying past de 3 avions de Chasseur 100-200 de la marine indonésienne. Selnias 2019 est le 11e événement organisé par le gouvernement indonésien depuis 2009. Nias est connu dans le monde entier comme le deuxième spot de surf après Hawaï. On espère Nias être plus connu et visité par les touristes après Selnias 2019. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le régent de Gianyar, M. Made Mahayastra, a ouvert le 7e festival de surf volant de Gianyar 2019, organisé par Belega Layang Layang Club au Balak, sur la place de Masjeti Medahan, Blah Batuh, samedi. Il a déclaré à Gianyar qu'il appréciait la jeune génération, la génération du millénaire, les membres de Balak Belega, et les dirigeants de la communauté qui avaient initié l'organisation du festival de surf volant de Gianyar. La mise en œuvre de cette activité apportera une contribution positive à la promotion du tourisme dans la région de Gianyar. En outre, l'objectif principal des compétitions de surf volant cette année est de donner aux artistes et aux jeunes de canaliser leurs talents dans les arts et la culture, y compris de préserver et de maintenir la culture de la nation. Le gouvernement indonésien est d'accord pour améliorer ses relations bilatérales avec la Russie et les États-Unis. Le ministre de Commerce, Enggartia Stolokita, a déclaré récemment dans un communiqué de presse que l'Indonésie était convenue d'améliorer ses relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement avec la Russie. Les deux pays ont convenu d'identifier les obstacles à la coopération entre les deux pays. Lorsque la Russie a participé à la réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN à Bangkok en Thaïlande, ce pays a demandé le soutien du gouvernement indonésien dans le projet de chemin de fer à Kalimantan. Il s'est engagé à faire la coordination avec les ministères ou institutions concernées en Indonésie. En outre, la Russie a également exprimé son intérêt pour les investissements dans le développement d'infrastructures afin de déplacer la capitale indonésienne. Cela a été déclaré par le ministre Enggar Tiasto. L'Indonésie a prêté l'attention à la décision du Parlement russe d'augmenter la taxe de l'huile de palme de 10% jusqu'à 20%. La Russie a souligné que l'augmentation de la taxe sur l'huile de palme était un acte ajustement tarifaire et non une protection. La Russie ne produit pas d'huile de palme. Elle a donc encore besoin d'ingérer de l'huile de palme indonésienne. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche continue d'améliorer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, ou MPME, du secteur maritime et de la pêche sur le marché numérique qui se développe de plus en plus dans le pays aujourd'hui. Le directeur général du renforcement de la compétitivité des produits maritimes et de la pêche, M. Auguste Herman, a déclaré que les MPME, y compris MPME marine et de la pêche, étaient des secteurs qui contribuaient grandement à l'économie nationale. Il a dit samedi à Jakarta que le MPME du secteur maritime et de la pêche était souvent confronté à cinq problèmes communs, à savoir le marketing, les capitaux, les compétences en ressources humaines, la maîtrise limitée de la technologie et la gestion. Par conséquent, il a récemment organisé un forum d'affaires et d'investissement dans le secteur maritime et de la pêche à Jakarta. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Repose en paix, inspirateur de la nation ». Le départ du troisième président de la République d'Indonésie, Bahruddin Yusuf Habibie, a laissé une profonde douleur. Habibie est né à Parepare, sur la Sulawesi du Sud, le 25 juin 1936. Il est décédé mercredi, le 11 septembre 2019, après des soins intensifs depuis le 1er septembre à l'hôpital central de l'armée, ou en indonésien, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ou abrégé en RSPAD, à Gatot Subroto, Jakarta. En plus d'avoir contribué à diriger l'Indonésie pour passer une période de transition cruciale à la fin des années 80, Habibie est aussi une source d'inspiration importante pour le pays. La figure inspirante d'Habibie a été reconnue par le président Joko Widodo. Le président a déclaré qu'Habibie motivait que grâce à la maîtrise de technologies telles que la technologie aéronautique, on pourrait ouvrir de larges opportunités à l'Indonésie pour progresser. Au cours de sa vie, Habibie a vu que l'Indonésie progresserait également si on parvenait à remplacer les produits pétroliers et gaziers traditionnels par des produits non traditionnels, non pétroliers et gaziers. Le président Joko Widodo a déclaré qu'Habibie était scientifique de classe mondiale qui était également le père de la technologie indonésienne. Selon lui, Habibie était une figure qui soutenait et fournissait toujours des idées et des solutions à tous les problèmes en Indonésie, soit à l'économie ou à la nationalité. La carrière de Habibie au gouvernement a commencé en 1978 lorsqu'on l'a nommé ministre d'État à la recherche et à la technologie au sein de l'administration du président Suharto. En 1995, Habibie dirigeait le projet d'avion N250 Gatot Kaca, le premier avion fabriqué en Indonésie. Habibie est devenu vice-président de la République d'Indonésie en 1998. La même année, il est devenu président après la démission de Suharto. Habibie a reçu diverses récompenses de l'intérieur et de l'extérieur du pays au cours de sa vie. Il a reçu Bintang Mahaputra Adi Pradana de la République d'Indonésie en 1982. Il a également reçu des prix des États-Unis, de la Belgique, du Chili, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, de Taïwan et de la Jordanie. Jeudi le 2 septembre, le troisième président de la République d'Indonésie, Baharudin Yusuf Habibie, a été enterré près de la tombe de sa femme, Hasri Ainun Besari, au cimetière des Zéros à Kalibata. Des milliers d'habitants ont emmené son corps à l'enterrement. Des personnalités et d'anciens dirigeants nationaux étaient présents. B.J. Habibie, on l'a relâché comme un héros, avec le drapeau rouge et blanc sur le cercueil, lors d'une cérémonie militaire présidée par le président Joko Widodo. Dans ses remarques, Jokowi a rendu compte à Bibi comme le véritable homme d'État, d'inspirateur et de scientifique. Il croyait que sans amour, l'intelligence était dangereuse. Il se souvenait aussi de la figure de Habibie comme visionnaire depuis son plus jeune âge. Voilà la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 15 septembre. On commence par le 15 septembre 1974, l'accident d'un vol aérien au Vietnam 706. Le vol 706 d'Air Vietnam s'est écrasé le 15 septembre 1974 près de la base aérienne de Pandrang, Vietnam du Sud. Après avoir décollé de l'aéroport international de Da Nang, Vietnam du Sud, dont le vol régulier était à destination de l'aéroport international de Tan Son Nhat Saigon, le Duc Tan, un garde forestier impliqué dans un vol de voiture, a détourné le vol en détenant deux grenades. Il a demandé au pilote de voler à Hanoï, au Vietnam du Nord. Pour des raisons inconnues, le pilote s'est approché de l'aérodrome de base aérienne de Panrang, mais il a annulé l'atterrissage. Peu de temps après, l'avion s'est écrasé au sol à une altitude de 300 mètres, faisant 75 morts dans l'avion. Le 15 septembre 2008, on a célébré la première Journée internationale de la démocratie. En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer le 15 septembre comme la Journée internationale de la démocratie pour promouvoir et faire respecter les principes démocratiques. L'Assemblée générale des Nations unies a également invité tous les États membres et toutes les organisations à commémorer cette journée de manière appropriée, ce qui a contribué à sensibiliser le public. Le 15 septembre 2017, l'attentat à la bombe du chemin de fer de Parson Green. Le 15 septembre 2017, vers 8h20, heure locale, une explosion s'est produite dans le train de la ligne district à la station de métro de Parson Green à Londres, en Angleterre. 30 personnes ont été traitées dans des hôpitaux ou des centres de soins d'urgence, principalement pour des brûlures par les bombes à godette brute avec des minuteries remplies de produits chimiques explosifs triacétone triperoxyde. La police a arrêté le lendemain le principal suspect, un réfugié irakien âgé de 18 ans, Ahmed Hassan, à la zone de départ du port de Douvres. La police a ensuite effectué une descente dans plusieurs adresses notamment la maison de famille d'accueil d'un couple de personnes âgées à Sunbury-on-Thames, où habite Hassan. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, le 15 septembre.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson intitulée « Dengan Nafasmu » chantée par Samson. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Dengan nafasmu aku hidup, karena tawamu aku bahagia, hidup di dunia.
Sama diri. We'll be right back.
sebuah simon Indonésie intitulé 16 pays participent au Tour de Siak. Le comité de 7e cours cycliste de Tour de Siak a annoncé que l'activité qui se déroulera du 18 au 22 septembre 2019 réunira 13 équipes de 16 pays. Le président du comité, qui préside également l'Office de tourisme de la région de Siak, Fauzi Asni, à Siak jeudi, a déclaré que les pays qui participeraient à l'événement étaient notamment l'Indonésie, la Malaisie, la Slovénie, Singapour, le Cambodge, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Japon et la France, l'Espagne, Mongolie, Iran et Russie. Fauzi Asni a ajouté que l'étape totale des coureurs devant passer était de 542 km. Pour la course, la première étape est Siak Mempura Dayu Siak. La route sera parcourue en deux tours d'une longueur de 128 km. La deuxième étape est Siak Bungaraya Sungai Api à Siak d'une longueur de 114 km. Tandis que la troisième étape est Siak Adayun à Artificial et à Siak avec deux tours d'une longueur de 160 km. La quatrième étape est Siak City Race avec 8 heures jusqu'à 140 km. Voyant cette distance, le comité espère que tous les habitants de Riau, en particulier la communauté de Siak, animeront ensemble l'événement annuel du Tour international de Siak. En ce qui concerne le problème météorologique de Siak, qui est toujours brumeux, Fauzi Asni a déclaré que pour ça, certaines autorités avaient décidé. Mais son équipe envisage toujours de mener à bien la course. Tandis que la région de Siak, Alfedri, est optimiste que le championnat international de course cycliste du Tour de Siak 2019 se déroulera bien sans le brume. Il a affirmé que le championnat était toujours en cours car il y avait eu un accord de réunion avec le conseil exécutif de l'Association indonésienne du sport cycliste. Selon lui, le Tour de Siak était inscrit au calendrier de United Cycling International. En outre, l'événement Tour de Siak a également participé à 5 événements de promotion du tourisme indonésien. Même le Tour de Siak, l'année prochaine, se déroulera dans la province de Riau. C'est tout mon Indonésie.
Untuk
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Reza dont le titre est « Dia » qui signifie « lui ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3,3 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici le magazine culturel. Chers auditeurs, cette fois-ci, nous vous présentons les spécialités culinaires de Solo, Tengkleng. Une visite de la ville de Solo sera complète avec une dégustation de différentes spécialités culinaires de la région. Solo est célèbre pour ses nombreux plaisirs culinaires légendaires tels que serabi noto suman, nasi liwet, salad Solo et bien d'autres. Si vous aimez les produits culinaires à base de chèvre, Tengkleng est une spécialité culinaire que vous devez goûter. Cette cuisine ressemble au curry, mais la sauce est plus fine. Le contenu n'est pas de la viande de chèvre, mais des entrailles et des os avec un peu de viande de chèvre. Selon la communauté, le populaire de Tengkleng était des aliments des pauvres, parce que pendant la période coloniale hollandaise, seuls les nobles, les riches et les Hollandais ont pu manger de la délicieuse viande de la chèvre au carré. À cette époque, les serviteurs ne recevaient généralement que des restes, c'était les os, les entrailles et de diverses autres parties de la chèvre, telles que les pattes et la tête. Les os et les entrailles de chèvre sont ensuite cuits par les serviteurs avec diverses épices et assez saumonnement afin que le goût soit délicieux. La sauce n'est pas aussi épaisse que le curry, elle devient plus délicieuse grâce au bouillon qui provient d'une décoction d'eau de chèvre. Les produits transformés de ces serviteurs sont maintenant connus sous le nom de Tengkleng, spécialité culinaire de Solo. De nos jours, ce n'est pas seulement les pauvres qui mangent du Tengkleng, mais également les personnes riches à la ville de Solo. Beaucoup de gens, y compris les fonctionnaires, aiment beaucoup ce plaisir culinaire. Même lors du mariage de son fils, le président Joko Widodo a également servi le Tengkleng Solo parmi ses plats. Lorsque nous apprécions Tengkleng, nous mangeons des os. Cela rend différent la sensation de manger de cette cuisine. Pour une portion de Tengkleng, vous devez payer 45 000 rupiah. Si vous voulez manger avec du riz blanc, vous devez ajouter 7 000 rupiah. Chers auditeurs, voilà le magazine culturel sur le Tengkleng de Solo. Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de The Groove, dont le titre est Satu Mimpiku. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Kemarangku dalam tatapanku, adakah arti dirimu?
Chers auditeurs, dans cette édition, je parle du film Gundala au Festival international du film de Toronto. Gundala a reçu un très bon accueil du public lors de sa projection jeudi au Festival international du film de Toronto 2019. Par la page officielle Instagram de Joko Anwar, il a partagé l'atmosphère avant la projection de Gundala. Dans la vidéo, une fille d'attente regardera les dernières œuvres de lui. Selon lui, la file d'attente s'est même produite une heure avant le temps de showing. 30 minutes plus tard, la file d'attente s'allonge dans une autre roue. Le réalisateur montre également le studio utilisé pour le showing de films adapté des bandes dessinées de Asmi, presque complètement remplies par le public. Selon Joko Anwar, Gundala a reçu un accueil favorable du public du Festival international du film de Toronto. Il a également mis en ligne plusieurs commentaires de l'auditoire. Ce film raconte de Santiaka, joué par Abhimana Ariasatya, qui vivait dans la rue depuis la mort de ses parents. Santiaka a vécu une vie difficile et a survécu en pensant à sa propre sécurité, sans s'immiscer dans les affaires des autres. Lorsque la ville s'aggrave et que l'injustice fait rage dans tout le pays, Santiaka doit décider s'il continue de vivre en se protégeant ou s'il devient un héros pour les opprimés. Joko Anwar a finalement été en mesure de prouver sa promesse que Gundala présentera un film d'action excitant et inspirant, car il y avait beaucoup de choses concernant l'humanité. Le premier patriote de Jagat Cinéma Bumi Langit a présenté un certain nombre de noms, tels que Abhimana Aryasatya, Bron Palarai, Tara Basro, Aryo Bayu, Rio Dewanto et Marisa Anita. Le retour du personnage de Asmi sur grand écran montre à la jeune génération que l'Indonésie a aussi un caractère fier. Cela peut être une nouvelle idole pour les enfants. C'est tout l'Indonésie en couleur sur le film Gundala au Festival international du film de Toronto.
We have
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Bintang Bintang » ou en français « Des étoiles » chantée par Titi DJ. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Et maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Voici le magazine Musica. Dans cette édition, je vous donne une chanson pop intitulée « Terlalu Dalam » qui signifie « Trop profonde ». La chanson dont le titre est « Terlalu Dalam » ou en français « Trop profonde » a été publiée par The Massif le 6 septembre 2019. Cette chanson parle d'une relation qu'on ne peut jamais continuer. Même si on a déjà des sentiments profonds, on devrait donc essayer de la laisser partir. Le créateur de la chanson et chanteur de Massif, Rian, a créé cette chanson après avoir entendu verser le cœur d'un ami proche. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Terlalu Dalam » ou en français « Trop profonde » chantée par de Massif. Bonne écoute!
Bahagiamu kan datang menjelang, kau dan dia selamanya menyatu. Engkau memberi ruang, aku masuk ke dalam dirimu yang telah berdua. Aku ku terjatuh, jatuh terlalu dalam. Sadarkah aku dan kamu terlalu jauh, terlalu jauh bersama. Hari bahagiamu kan datang menjelang, kau dan dia selamanya.
Voice of Indonesia.
Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang.
Mungkin salahku yang telah memasuki kehidupanmu yang telah berdua, namun semua ini takkan membuatku menyerah begitu saja. Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi seorang pecundang. Aku terlahir sebagai pemenang, kan ku rebut hatimu darinya. Mungkin salahku yang tak menghiraukan keadaanmu yang tak sendiri, namun semua ini takkan membuatku menyerah begitu saja. Aku terlahir di dunia ini bukan untuk jadi
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Au revoir.